Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 26 mai. On est comme entre deux saisons. On se promène du 2 degrés au 29 degrés.
On espère.
Je peux dire que moi, j'ai roulé dimanche. On a eu toutes les saisons presque dimanche, sauf la neige.
Ça arrive parfois. Vous voulez entendre parler de voyage, de nature, de science? Ben vous êtes à la bonne place avec les bonnes personnes. Alors, je suis en compagnie de mes complices. Et aujourd'hui, c'est Marie Dalande.
Bonjour, Michel.
Et Yvan Desdoriens.
Bonjour.
Et André Etienne s'est permis de petites vacances.
On la salue.
On est à la période où on peut se permettre.
On a le droit.
Très certainement. Alors, aujourd'hui, Marie, de quoi tu nous parles?
Alors, je vais vous parler dans un premier temps de langue de communication dans le monde des sciences.
Oui.
Et de crevettes, l'avenir des crevettes nordiques. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler de lecture inspirée par le monde des voyages. Alors, on va aller en Scanie et chez Valender.
Ah oui, il nous a fait découvrir la Scanie, hein?
Oui.
Tout à fait, c'est ça. Et Yvan, de ton côté.
Oui, de mon côté, ben, cette semaine, c'est la semaine de l'ACFAS. Hein? C'est la semaine c'est un colloque pour mettre en évidence, les sciences d'un point de vue francophone. Alors, j'ai deux sujets d'ordre scientifique. Un, c'est comment traiter rationnellement des enjeux écologiques qui sont souvent, on est très pris par l'enjeu, mais il faut regarder les faits. Et le deuxième, c'est une prise de conscience de l'état du Saint-Laurent vis-à-vis de nouvelles menaces.
Ah oui, c'est questionnant ça. Hein?
Oui. Et toi, Michel?
De mon côté. C'est la période des vacances, on se promène, on peut aller à l'étranger, aux États-Unis, et on reçoit une contravention. Est-ce qu'on doit la payer? Vous avez peut-être votre petite idée là-dessus?
Ben, on a tous 10 secondes pour penser à une réponse.
C'est ça. J'emmène à un endroit particulier aussi qui s'appelle l'île au trésor. Et vous voyez, il y a des découvertes à faire de ce côté-là. Il y a même James Bond qui va apparaître. Pour en connaître plus, ben, restez avec nous. Alors, on part en voyage. Doit-on payer une contravention reçue à l'étranger? Violaine Balivi nous en parle dans la presse du 9 mai. Alors, ben, c'est vite arrivé, hein? Un peu de nervosité, décalage horaire, par exemple. Eh bien, vous vous engagez dans un sens unique, ce qu'on ne devrait pas faire, en essayant de rejoindre une auberge que vous avez cherchée sur Internet et puis qui était facile à trouver. Bien, vous ne la trouvez pas. Bien, évidemment, au bout de l'avenue, il y a un agent. Malheureusement, ça donne comme ça, qui n'a pas manqué de vous prendre en défaut. Hein. Ça peut être une facture salée qui commence bien mal votre voyage, ou peut-être amputée sur les souvenirs ou autre chose.
Et là, la fameuse question, est-ce qu'on doit vraiment payer?
Et la réponse qui s'impose est très claire. C'est oui. Puisqu'en conduisant dans un pays étranger, vous vous engagez à respecter le code de la sécurité routière. Et non seulement le code de la sécurité, les lois du pays aussi. Alors, PMO, il est inutile d'essayer d'échapper aux sanctions si le délit est commis sur le territoire d'une administration qui a signé une entente. Parce qu'il existe des ententes de réciprocité avec la Société de l'assurance automobile, la SAC. Il n'y en a pas beaucoup, des ententes de cette sorte. Il y a le Maine, il y a l'Ontario et l'État de New York. Mais c'est quand même...
C'est
près de chez
nous,
c'est ça. Mais les points d'inaptitude imputables à cette faute vont être communiqués directement à la SAC, société. Mmh. Et ça va apparaître sur votre permis de conduire. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir, hein, les points de démérite. Sachez aussi que certains États américains, et il y en a plusieurs, exigent un paiement immédiat de l'amende sur le champ et souvent en argent comptant. Alors, impossible de s'esquiver. Il faudra mettre la main dans le portefeuille. Hein? Et la CAA Québec, que vous connaissez certainement, permet à ses membres de reporter le règlement s'ils se munissent d'un certificat de garantie de paiement de cautionnement. Qui, en vertu d'une entente avec son homologue américain, le homologue américain, c'est le AAA, American Automobile Association. Et c'est reconnu par les services policiers et ça permet de retarder ou de repousser le versement jusqu'à la concurrence de 1 000. Donc, ça peut être quand même très, très précieux. Hein? Bien, évidemment, il faudra rembourser son dû à la CAA au retour. Mais le délai peut être très pratique en voyage. Bien, surtout si vous avez un budget un peu serré. Hein?
Mm-hmm. Qu'est-ce qui arrive si on a une voiture de location?
Ah, voilà la question. Bien, vous ne vous en tirerez probablement pas davantage au volant d'une voiture de location, même s'il n'y a aucun contact direct avec un policier. Je pense, par exemple, à l'extérieur, si vous avez un radar photo.
Oui. La
facture va être envoyée directement à la compagnie de location. Et, bien, elle va vous avoir demandé votre carte de crédit. Hein? La société de location, bien, elle va prélever directement la somme due sur votre carte de crédit. Et c'est ordinairement précisé dans le contrat de location. Mm-hmm. Donc, difficile d'en échapper.
De s'en sortir,
hein?
Oui.
Alors, dans tous les autres cas, la CAA Québec conseille fortement de toujours rembourser son dû avant de quitter le pays où a été commise l'infraction. On va s'éviter de potentiels frais qui pourraient être très importants. On ne viendra pas vous chercher jusque chez vous pour collecter de l'argent si vous ne payez pas. Mais si vous retournez dans le pays et que vous vous faites pincer une deuxième fois, ben les conséquences pourraient être plus graves et parfois même très inquiétantes. Hein? Mm-hmm. On pourrait même vous incarcérer.
Mm.
En fait, vous courez des risques même si vous ne commettez pas de deuxième infraction. Et ça, c'est un bureau d'avocats qui nous conseille ça. Le bureau d'avocats qui s'occupe des contraventions experts. Certains États pratiquent la détection de plaques d'immatriculation. Ben, de la même façon qu'on voit pour le stationnement ici, par exemple. Et si vous êtes fiché par les autorités pour une amende impayée, ben, on va vous arrêter même si votre conduite est impeccable.
C'est irréprochable.
Ah! Alors, vous voyez, vous êtes cerné de toutes parts. Mmh. Il est toujours possible de contester une contravention, mais sachez que les démarches peuvent être laborieuses. La première chose à faire, c'est d'appeler la cour concernée pour connaître les procédures et essayer de trouver une entente. Mais est-ce que vous voulez vraiment contester la contravention si vous devez retourner sur place? Vous imaginez en Italie, en France ou quoi que ce soit, à moins que ce soit extrêmement sérieux, un accident mortel ou quelque chose du genre. Mais c'est très complexe et ça peut vous coûter cher s'il faut se déplacer. N'oubliez pas la langue du pays.
En
plus, à plusieurs moments, y compris aux États-Unis, vous devrez prendre un avocat local. Donc, même si vous avez votre avocat, vous devez prendre un avocat local. Donc, vous imaginez les complications.
Et les frais.
Il faut véritablement évaluer le degré de l'infraction. Le AAA, American Association, l'équivalent de CA, publie sur son site Internet des informations exhaustives sur les règles de sécurité routière en vigueur dans chaque État. Les recherches peuvent être effectuées par État ou par règlement. Parce que très utile si on prévoit de traverser plusieurs États. Vous savez, on sera étonné de voir à quel point la législation diffère d'un endroit à l'autre et d'un État à l'autre. C'est valide pour les cyclistes aussi, en passant. Hein?
Ah bon?
Le port du casque est obligatoire dans certains États.
Oui.
OK, ça, c'est pas un problème pour moi, ça.
Alors, vous pouvez, à certains moments, être pris avec ça. Pour l'Europe, l'Association Prévention routière publie sur son site un résumé des règles en vigueur dans 28 pays, de même qu'un tableau synthèse facile à consulter. Puis il y a un lexique aussi des principales expressions routières. Ce serait peut-être utile aussi d'avoir une lecture des icônes,
parce que
ça varie beaucoup d'un pays à l'autre.
C'est vrai, ça.
Autrement dit, faites attention et payez donc vos contraventions.
Mm-hmm.
Violaine Balivi qui nous donnait ce conseil dans la presse du 9 mai.
Alors, c'est la semaine des sciences, on en a parlé. Dans ce contexte, je vous présente un texte de Charles Tisser et de Yannick Villedieu, animateurs des émissions Les Années-Lumière et Découvertes, publié sur le site ici-radio-canada.ca le 25 mai et dont le titre est « Partager la science en français ».
C'est étonnant, tout de suite, en commençant, le titre « Partager la science en français ». Parce qu'en général, tout se passe en anglais dans le domaine scientifique.
Ça va être une lecture fascinante.
Alors, on explique pourquoi ici. On se demande souvent pourquoi les scientifiques francophones du Québec et du Canada publient leurs études en anglais plutôt qu'en français. La raison, en fait, est tout à fait logique. C'est que la langue de communication de la science à travers le monde, c'est l'anglais. Dans les congrès internationaux, le scientifique voudra aussi faire sa présentation orale en anglais pour que de nombreux chercheurs puissent comprendre ses travaux, l'interroger dans une langue que tous pourront comprendre. En revanche, dans leurs pays respectifs, les chercheurs aiment et se font même un devoir de communiquer dans leur langue maternelle les résultats de leurs travaux à leurs concitoyens. C'est là, entre autres, la vocation de l'ACFAS. C'est l'Association francophone pour le savoir qui tient cette semaine justement du 24 au 29 mai son 83e congrès annuel. Pendant 5 jours, l'Université du Québec à Rimouski, le Cégep de Rimouski et l'Institut maritime du Québec accueillent des milliers de scientifiques. Sous le thème « Sortir des sentiers battus », le congrès présente pas moins de 2500 communications scientifiques présentées par des chercheurs, des professeurs et des étudiants de la francophonie. Le 83e congrès de l'ACFAS, en bref, c'est la plus grande rencontre scientifique multidisciplinaire du monde francophone. C'est 3500 chercheurs, 300 participants qui viennent d'une trentaine de pays autres que le Canada.
Considérable.
Et aussi toutes sortes d'activités pour le grand public. Alors, ceux qui sont près de cette région-là, je vous incite à y aller. Rappelons que c'était un court texte de Charles Tisser et Yannick Villedieu qui est publié sur le site ici, Radio-Canada, le 25 mai. Toujours en lien avec la science, je vous présente maintenant un texte de Jean-François Bouchard, publié le 14 mai sur le site de l'Université du Québec à Rimouski, c'est lucar.ca, qui est l'université hôtesse du congrès de l'ACFAS, rappelons-le, et dont le titre est « Les changements climatiques risquent d'altérer le goût des crevettes ». Les amateurs de crevettes nordiques, communément appelés au Québec les crevettes de Matane, ne verront plus les changements climatiques du même œil. Une recherche réalisée par le professeur Piero Calosi et ses collègues européens démontre qu'une exposition aux futures conditions d'acidification des océans risque d'altérer significativement le goût de ce crustacé. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le potentiel hydrogène, c'est le pH des océans, devrait diminuer de 0,3 à 0,5 unités d'ici la fin du siècle. Conséquemment, la concentration en acide devrait augmenter de plus de 150 fois par rapport à la période pré-industrielle. Avec ses collègues de l'Université de Gothenburg et de l'Université de Plymouth, le professeur a voulu vérifier quels seront les impacts de cette acidification sur des crustacés que nous consommons comme fruits de mer. Ils ont porté leur recherche sur la crevette nordique en raison de son abondance et de sa valeur commerciale. Pour évaluer l'impact de l'acidification sur la crevette nordique, les chercheurs ont exposé des crevettes à des conditions d'acidification projetées en 2100 dans les laboratoires de la station marine de l'Université de Gothenburg. Pendant 3 semaines, les chercheurs ont maintenu des crevettes dans des bassins d'eau de mer dont le pH est de 8 unités. Ça, c'est le pH qu'on retrouve présentement dans les océans. Et d'autres, dont le pH est de 7,5 unités. Il s'agit d'une augmentation de l'acidité de l'eau de mer de 60 % comparée aux conditions qu'on retrouve en moyenne actuellement dans les océans. Ensuite, un chef professionnel de Suède a soumis à un test à l'aveugle un panel de 30 personnes qui connaissent bien la crevette nordique. Des plats standardisés ont été servis avec des crevettes provenant des 2 bassins utilisés dans le cadre de l'expérience. Ces connaisseurs suédois ont évalué l'aspect, le goût et la consistance des crevettes servies. S'ils n'avaient pas de commentaires particuliers sur la consistance, les participants ont relevé une modification dans le goût et dans l'aspect des crevettes. Celles qui ont été exposées à des conditions d'acidification ont été notées comme les moins bonnes du plat. En revanche, celles qui avaient les mêmes conditions actuelles de pH ont été notées comme les meilleures. Le chercheur ne sait pas encore ce qui provoque ces changements, mais il est clair que l'acidification de l'eau de mer a empiré le goût et l'aspect des crevettes nordiques de l'expérience. Chose certaine, c'est une partie du patrimoine culinaire de plusieurs pays et cultures qui risque d'être changée si les océans continuent de s'acidifier.
Et dans cette recherche, Marie, est-ce qu'on mentionne d'autres conséquences sur les crevettes?
Oui, j'ajoute ceci, j'ai trouvé ça sur le site ici, radiocanada.ca, à propos de la même recherche. L'acidification des océans appréhendés réduirait aussi les chances de survie de la crevette dans une proportion pouvant aller jusqu'à 63 %, c'est quand même beaucoup. Selon le chercheur, le taux d'acidification ou le pH de la mer a été stable pendant les 250 000 dernières années. Il a diminué jusqu'ici de 0,1 %, mais il sera 5 fois plus élevé dans les prochaines décennies. Pour empêcher ces fâcheuses conséquences, qui se répercuteraient aussi sur l'économie gaspésienne, il faudrait que l'industrie réduise les émanations de CO2 dans l'atmosphère. Rappelons que c'était un texte de Jean-François Bouchard, publié le 14 mai sur le site ucar.ca.
Quartier, quartier, oh Jacques Cartier, si t'avais navigué à l'envers de l'hiver. Quartier, quartier, si t'avais navigué du côté de l'été, aujourd'hui on aurait toute la rue Sherbrooke bordée de cocotiers, avec perché dessus des tas de perroquets, et tout le Mont-Royal couvert de bananiers, avec des petits singes qui se balanceraient. Le long du Saint-Laurent, on pourrait se baigner tout nu en plein hiver et se faire bronzer. Quartier, quartier, oh Jacques Cartier, si t'avais navigué à l'envers de l'hiver. Quartier, quartier, si t'avais navigué du côté de l'été, aujourd'hui on aurait le pont Victoria, tout de lianes dressées. On le traverserait en portant des paquets sur la tête, en riant et sans chaussures aux pieds. On jouerait du tam-tam et du ukulélé, et toute la rue Pile sentirait l'oranger, la menthe, le jasmin, le lotus, l'orchidée. Quartier, quartier, oh Jacques Cartier, si t'avais navigué à l'envers de l'hiver. Quartier, quartier, si t'avais navigué côté de l'été, aujourd'hui on aurait sur l'avenue des Pins des girafes étonnées de voir des écureuils leur passer sous le nez, de gros éléphants blancs sur la rue des Lormiers et la place Ville-Marie en forme de minaret, des tempêtes de sable tout chaud et tout doré sur lequel en janvier il ferait bon rêver. Quartier, quartier, oh Jacques Cartier, si t'avais navigué à l'envers de l'hiver. Quartier, quartier, si t'avais navigué du côté de l'été, aujourd'hui on aurait Montréal à Dakar, Conakry ou Tanger, Montréal à Tokyo, Kyoto ou Kobe, Montréal à Aden, Fremantle ou Bombay, Montréal à Java, Bornéo, Papété, Montréal à Phnom Penh, à Bangkok, à Hue, Montréal à Hong Kong, Canberra ou Sydney, Montréal à Dakar, Conakry ou Tanger, Montréal à Tokyo, Kyoto ou Kobe, Montréal à Aden, Fremantle ou Bombay, Montréal à Java, Bornéo, Papété.
Merci, Jean-Sébastien. Alors, comme Charlebois nous le dit, si Cartier avait navigué autrement, on aurait d'autres problèmes écologiques à considérer que ceux qu'on a à considérer.
Assez certainement.
M'avez-vous compris?
Tout à fait.
Ah bon, OK. Pas moi. Alors,
les autres te comprennent.
C'est ça qui est important, finalement. Alors, le texte que je vais vous lire, c'est « Comment traiter rationnellement les enjeux écologiques, justement ». C'est un article écrit le 23 mai par Claude Lafleur, collaborateur au Devoir. C'est un texte qui faisait partie d'un cahier spécial. Alors, devrait-on, oui ou non, autoriser l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent? C'est la question que se pose Philippe Archambault, professeur à l'Institut des sciences de la mer de l'Université du Québec à Rimouski, l'ISMER. Il a, par conséquent, organisé l'un des 135 colloques du 83e congrès de l'ACFAS. Je pense que vous commencez à connaître qu'il y a un congrès de l'ACFAS à Rimouski.
Ah oui?
Oui. Qui est le congrès qui est intitulé... pas le congrès, mais le colloque est intitulé « Environnement sociologique du... socio-écologique plutôt du golfe du Saint-Laurent ». Ce colloque pose la question « Sommes-nous prêts pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures? » En réalité, il s'agit de l'amorce d'un processus qui devrait s'étendre sur 3 années et qui vise à couvrir de façon rationnelle tous les aspects de cette question. Comme un peu tout le monde, relate Philippe Archambault, je me suis rendu compte que lorsqu'on aborde un enjeu écologique, on tombe vite dans des débats d'opinion et d'émotion. On n'est vraiment pas dans la science. Or, ce spécialiste de la biodiversité, surtout celle du golfe et de l'estuaire du Saint-Laurent, déplore le fait que souvent, on ne base pas nos décisions sur les faits. Prenez par exemple des bélugas de Kakuna. Ces dernières années, on a abondamment débattu de la possibilité de construire un terminal maritime à Kakuna. Finalement, le projet a été abandonné puisque trop risqué pour l'habitat de ces mammifères marins.
Bien, est-ce qu'il faudrait douter du fait que cette décision-là n'a pas été prise correctement?
Alors, selon notre chercheur, M. Archambault, en tant que citoyen, il était contre ce projet. Mais je suis... Donc, il est heureux de son abandon. Toutefois, comme scientifique, il n'est pas vraiment heureux parce que ça n'a pas fait partie d'un débat basé sur des faits. En fait, si ça avait été une cause portée devant un tribunal, jamais un juge n'aurait accepté les arguments avancés de part et d'autre. Normalement, devant un tribunal, poursuit-il, une série d'experts viennent présenter les faits à une douzaine de jurés afin que ceux-ci, disposant de la même information, en viennent à prendre une décision éclairée. C'est un processus semblable de discussion citoyenne des enjeux socio-écologiques que désire implanter le professeur Archambault et son équipe. Je trouve que beaucoup de nos prises de décision sont actuellement basées sur des oui-dire. Certains nous disent ceci, d'autres cela. Ainsi, que sur des impressions, alors qu'en tant que scientifique, on a des faits. Par exemple, le nombre de bélugas a diminué et quiconque prétendrait le contraire devrait le démontrer. M. Archambault considère donc que son rôle est justement d'apporter les faits pour et contre, afin que nous, citoyens, soyons le mieux éclairés possible. Et par la suite, en société, on prendra une décision, mais tous avec les mêmes éléments, dit-il. C'est ainsi que dans le cadre du congrès de l'ACFAS se tiendra une journée consacrée aux enjeux d'une éventuelle exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent. Dans un premier temps, en avant-midi, 8 chercheurs présenteront les différentes facettes de la question, historique, socio-écologique, économique et juridique. Puis en après-midi, 3 tables rondes jetteront les bases des enjeux à traiter. Lorsqu'on est scientifique, on travaille avec des faits, poursuit le professeur. Je me suis donc demandé comment pourrait-on amener les citoyens à ne pas se baser sur des opinions. Le colloque que j'ai organisé est l'une des premières étapes de la mise en œuvre d'un réseau qui cherchera à mettre toute l'information dont on dispose à la portée de tous. Tout le monde doit avoir l'information de tout le monde, comme devant un tribunal, poursuit-il. Nous allons donc créer un site web où nous donnerons accès à l'information disponible.
Oui, c'est beau, mais à ce moment-là, est-ce qu'on n'a pas la possibilité d'être inondé, d'avoir une inondation d'informations de toute espèce?
Et M. Archambault a pensé à cette possibilité-là et on n'y mettra pas n'importe quoi dans le site Web. Il s'agira d'informations validées par des scientifiques, un peu comme un juge qui n'admet devant son tribunal que de l'information valide. Ainsi, toute organisation, entreprise, groupe écologiste, gouvernement devra fournir les données sur lesquelles il se base. Un juge n'accepterait jamais qu'un avocat dise « J'ai un témoin expert qui affirme que… » mais il ne viendra pas témoigner. Selon les informations présentées sur ce site, les personnes devraient être capables de prendre une décision éclairée. Ou, comme il le dit, le « oui-dire » ne sera pas accepté.
Bon, bravo, ça c'est intéressant.
Le professeur Archambault espère centrer sa démarche uniquement sur un enjeu, en l'occurrence les hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent. On doit s'en tenir à ça, dit-il. Par exemple, si quelqu'un désire discuter de l'impact des gaz à effet de serre ou du remplacement des énergies fossiles par les éoliennes, ça sera pourtenu. C'est comme si, dans une cause de meurtre, quelqu'un voulait aussi traiter du contrôle des armes à feu, ça serait l'objet d'un autre débat.
Bonne comparaison. Mm-hmm.
À la suite du colloque de l'ACFAS, le réseau qu'il supervise prévoit demander à différents spécialistes de résumer nos connaissances sur les différentes facettes de la question des hydrocarbures dans le Saint-Laurent. D'ores et déjà, M. Archambault rapporte avoir recruté une vingtaine d'experts prêts à collaborer. On a déjà un livre en préparation sur tout ce qu'on doit savoir pour prendre une décision éclairée, et ce, à tous les niveaux, dit-il avec ravissement. Ultimement, le chercheur citoyen espère produire un document de recommandation basé uniquement sur les faits reconnus et acceptés par tous. Il souhaite ainsi montrer comment nous, les citoyens, on devrait s'y prendre pour parvenir à des décisions rationnelles au sujet d'enjeux complexes et souvent émotifs. C'était l'article « Comment traiter rationnellement les enjeux écologiques » produit par Claude Lafleur, collaborateur pour Le Devoir, le 23 mai 2015.
Alors, s'informer avant de traverser la douane, mais dans un autre domaine, pour savoir quels aliments on peut apporter aux États-Unis, on consulte le help.cbp.gov. Et pour connaître la liste des aliments que l'on peut rapporter des États-Unis, on va au inspection.gc.ca, section aliments, puis importation.
Une grande nouvelle, vous savez, on a dans les voitures des allumes, on appelle ici allume-cigarette, en Europe allume-cigare. Eh bien, dans des véhicules de marque Hyundai vendus en Corée du Sud, c'est appelé à disparaître. Donc, excusez ma voix, le constructeur a annoncé que cet accessoire, qui est apparu pour la première fois en 1925, serait dorénavant remplacé par un port USB. Alors voilà, je pense que ça va s'étendre à toutes les voitures aussi.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, rebonjour. Un petit changement dans l'ordre des textes. C'est moi qui prends tout de suite le micro pour vous parler maintenant du Saint-Laurent aux prises avec de nouvelles menaces. C'est un article qui a été écrit par Alexandre Shields dans Le Devoir du 22 mai. Si la santé globale du Saint-Laurent s'est améliorée au cours des dernières années, il demeure très sensible aux impacts de l'activité humaine, en plus d'être confronté à de nouvelles menaces. C'est ce que conclut le rapport « Portrait global de l'État du Saint-Laurent 2014 », qui constate notamment l'émergence de contaminants, le développement d'espèces envahissantes et les effets du changement climatique. Le fleuve Saint-Laurent est actuellement dans un état généralement stable, mais demeure un système très fragile et soumis à des pressions constantes. Et si certains indicateurs s'améliorent, d'autres se détériorent, résume Jean-Éric Turcotte, directeur général de Stratégie Saint-Laurent. Cet organisme non gouvernemental a participé à la rédaction, avec Québec et Ottawa, du rapport produit dans le cadre du suivi de l'état du Saint-Laurent. Mais la publication récente de ce document, qui couvre la portion fluviale, l'estuaire et le golfe, est passée totalement inaperçue. Le bilan réalisé tous les 5 ans dresse pourtant un portrait assez révélateur du fleuve aux grandes eaux. Au chapitre des bonnes nouvelles, on constate le recul des polluants autrefois omniprésents dans les sédiments, comme le mercure, les BPC et les HAP. Mais ceux-ci représentent toujours une menace réelle dans certains secteurs, dont le sud du lac Saint-Louis, le secteur en aval de Montréal, le delta de Sorel, au lac Saint-Pierre et les ports de Montréal et de Québec.
Est-ce qu'il existe de nouvelles formes de pollution qui touchent le fleuve?
Monsieur Turcotte précise qu'il y a des contaminants émergents qui sont de plus en plus présents dans le Saint-Laurent. C'est le cas des retardateurs de flammes, connus sous l'acronyme PBDE. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à mettre les P et les B à bonne place.
On ne connaît pas ça, par contre.
Ben non. Ceux-ci sont utilisés dans les produits électroniques, les textiles et les plastiques depuis les années 1970, quand même.
Bon.
Or, on sait aujourd'hui que ces produits pourraient être cancérigènes, en plus de perturber le système endocrinien. Qui plus est, ils ont un potentiel de bioaccumulation et peuvent provoquer des effets néfastes chez les animaux. On retrouve d'ailleurs des concentrations croissantes de PBDE tout au long de la chaîne alimentaire, au point de présenter de nombreux dépassements de critères pour la vie aquatique. Ils sont même dans la mire des chercheurs en raison de l'impact qu'ils pourraient avoir sur le succès reproducteur des bélugas. La famille des produits pour les soins personnels représente elle aussi des risques environnementaux de plus en plus significatifs. Ces produits regroupent les médicaments, les hormones, les antidépresseurs, etc., et les produits d'hygiène et de beauté. Des produits comme les exfoliants contiennent par exemple des microbilles de plastique qui se retrouvent dans le fleuve. Mm-hmm. On a déjà discuté des microbilles ici. Des chercheurs de l'Université McGill ont d'ailleurs découvert que le Saint-Laurent est lourdement contaminé par le plastique. À certains endroits entre Montréal et Québec, les chercheurs ont trouvé plus d'un millier de microbilles par litre de sédiments, une portion largement supérieure à celle des sédiments marins dans les secteurs les plus contaminés du monde. La prévalence des microplastiques dans le fleuve Saint-Laurent évoque la possibilité que les poissons et d'autres animaux les ingèrent. Si l'on connaît mal les effets des microplastiques sur l'environnement, on sait néanmoins que les surfaces de ces particules attirent des polluants chimiques, alors déposés dans l'organisme des animaux après l'ingestion des plastiques. Selon M. Turcotte, tous ces nouveaux contaminants sont inquiétants. Il faut donc maintenant maintenir le financement de la recherche pour avoir des informations qui sont à jour, mais il faut aussi envisager les prises de position politiques et réglementaires. Le suivi des espèces envahissantes mériterait également davantage d'attention. Est-ce qu'on met ce qu'il faut comme moyen pour lutter efficacement contre ces espèces? Nous avons bien quelques programmes de suivi qui permettent de documenter la problématique, mais on pourrait en faire davantage. Certaines espèces de poissons, de crustacés et de plantes ont en effet été introduites dans cet écosystème au fil des ans, notamment par les navires. Elles viennent concurrencer les espèces en place, mais aussi envahir des secteurs, au point de faire disparaître des espèces indigènes. Le hic, c'est que le Québec a présentement peu de moyens pour éviter ces arrivages indésirables. Jean-Éric Turcotte craint d'ailleurs l'arrivée de la carpe asiatique. Ces poissons, introduits accidentellement dans le Mississippi il y a plus de 20 ans, ont réussi à remonter jusqu'au Grand Lac, annihilant d'autres espèces sur leur passage. Le Saint-Laurent est désormais menacé. C'est inquiétant, on se croise les doigts pour que la migration vers le Saint-Laurent ne se fasse pas rapidement.
J'ai l'impression que le fleuve doit être aussi affecté par les changements climatiques. Hein?
Notre monsieur Turcotte estime qu'on ne pourra pas éviter les impacts des changements climatiques, de la baisse du taux d'oxygène dans l'estuaire et de l'acidification des eaux. Puis ça touche d'ailleurs les crevettes de Matane, comme on a parlé tantôt.
Oui.
Or, ces phénomènes interreliés et provoqués en bonne partie par les émissions de CO2 issues de la combustion d'énergie fossile ne peuvent que s'amplifier au cours des années à venir. Ils auront d'ailleurs des impacts sur l'ensemble de l'écosystème du Saint-Laurent. Le problème, c'est qu'ils se font de plus en plus sentir à une époque où les fonds consacrés à la recherche tendent à s'amenuiser. Le gouvernement Harper a, par exemple, supprimé l'essentiel de la recherche en écotoxicologie qui était auparavant menée sur le Saint-Laurent. Une décision politique qui n'est pas sans conséquences. Un exemple, le suivi des PBDE, sources de vive inquiétude pour les scientifiques, s'est arrêté net en 2012. C'était la lecture de l'article « Le Saint-Laurent aux prises avec de nouvelles menaces », article écrit par Alexandre Shields dans Le Devoir du 22 mai.
Alors, merveilleux choix pour accompagner ce titre. L'île au trésor, d'où du bon à James Bond. Curieux que James Bond apparaisse dans Québec oiseau, hein? Québec oiseau printemps 2015 par Michel Gosselin. Le premier paysage à avoir été affecté par la colonisation européenne, ben c'est le golfe du Saint-Laurent, dont on vient de parler, et qui a subi des transformations inimaginables depuis 5 siècles. Il y avait des immenses troupeaux de baleines, de morses, de grands pingouins même, et qui ont été complètement exterminés. Ils ne subsistent plus de leur présence que de rares témoignages qui s'étalent du début du 16e siècle aller jusqu'au 18e siècle. Peintre naturaliste John Audubon, Audubon si vous préférez, s'arrête aux îles de la Madeleine et au Rocher aux oiseaux à l'été 1833. La faune du golfe avait déjà été soumise à 3 siècles de déprédation. Seule place forte à avoir survécu à ce carnage, ben, le rocher aux oiseaux, qui était protégé par ces récifs des falaises, qui servaient alors de refuge aux oiseaux marins, en nombre tel qu'Audubon avait d'abord cru que l'île était couverte de neige.
Ah, oh, mon Dieu!
Alors, on calcule qu'il devait y avoir à ce moment-là quelque chose comme 200 000 fou de bassin. La construction en 1869 du premier phare au Rocher aux oiseaux, et vous avez aussi l'arrivée du phare, de son canon de brume et des gardiens résidents. Et la population de fou de bassin à ce moment-là a été réduite en 3 décennies, on a parlé de 200 000 tonnes, et a été réduite à 2000 individus.
Aïe, aïe, aïe.
Oui, c'est beaucoup ça.
Alors, une sommité de l'époque, un ornithologue américain visite les îles de la Madeleine et il avait entre autres constaté que le rocher aux oiseaux et son tout nouveau phare attiraient des oiseaux désorientés. Mmh. Et il avait trouvé des individus sur le rocher totalement égarés. Au 19e siècle, tout ornithologue amateur sérieux se devait d'avoir sa collection de spécimens et d'œufs d'oiseaux. C'était le seul moyen à l'époque de se familiariser avec la diversité des espèces. Pour les naturalistes de Nouvelle-Angleterre, des îles de la Madeleine, les îles de la Madeleine offraient un accès relativement facile aux sites de nidification de plusieurs espèces marines ou nordiques, surtout après 1876, avec l'instauration d'une navette régulière par bateau à vapeur. Mmh. Alors, vous imaginez le nombre de personnes qui sont venues. Les décennies 1880-1890 ont vu défiler aux îles plusieurs de ces amateurs sérieux. Alors, ces visites d'ornithologues aux îles de la Madeleine ont permis d'en documenter la vie faune, de mieux en mieux. Et au fil des comptes rendus, la liste des espèces présentes s'allonge. Mmh. Alors, ces laborieuses collections scientifiques se faisaient dans la foulée l'exploitation massive des oiseaux et des œufs qui avaient cours dans le golfe à l'époque, surtout de la part des flottes de pêche néo-écossaises et états-uniennes.
On sait pourquoi cette exploitation massive? Ben,
les fous de bassin étaient systématiquement abattus pour différentes raisons, mais entre autres sources pour servir d'appât de pêche, qui est assez étonnant.
Oui.
Et la plupart des oiseaux marins et leurs œufs étaient consommés aussi. Mm-hmm. Les oiseaux et leurs œufs, donc vous imaginez les conséquences.
Ben oui.
On nous dit que les jeunes goélands étaient particulièrement prisés. Et un explorateur disait, ils sont très corrects en ragoût.
Oh, yeah.
Donc, c'est documenté. Une seule cargaison d'œufs pouvait contenir 6 000 œufs. Et à ce moment, sans compter que les œufs d'abord détruits sur place pour s'assurer que ceux ensuite récoltés aient été fraîchement pondus.
Mm-hmm.
Donc, on les bouffait et on les détruisait en plus.
C'est un nettoyage complet, ça.
Absolument, c'est ça. Dans la première décennie du 20e siècle, comme dans les dernières du siècle précédent, un certain nombre d'amateurs sont venus aux îles de la Madeleine pour ajouter à leur collection de spécimens. Ce n'est qu'à partir de 1917 que la loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs viendra mettre fin à cette pratique.
Mais là, jusqu'à présent, là, tu nous donnes un article sur les îles de la Madeleine, puis James Bond, un jour, il va y avoir un lien, là.
Oui. Je vais te le faire un peu plus tard.
Ça s'en vient. Sois patient.
On commence avec Audubon et on finit avec James Bond.
D'accord. OK.
On nous dit que pour les chasseurs de l'époque, les oiseaux de rivage étaient des gibiers aussi légitimes que les canards maintenant.
OK.
Et pourquoi pas? Le début du 20e siècle a vu le pôle d'intérêt des ornithologues glisser de la taxonomie descriptive vers des études plus centrées sur la biologie et le comportement. Dans un monde où les jumelles d'opéra et les manuels illustrés remplaçaient petit à petit le fusil comme principal outil de l'ornithologue amateur. Mm-hmm. Donc, ça évoluait, ça changeait. Photographier la colonie, c'était une tâche qui était peu banale à ce moment-là, quand on sait que les négatifs étaient alors des plaques, des plaques de verre. Et vous imaginez la pesanteur pour chaque photo, et qu'on devait hisser au haut des falaises. Alors, le résultat de cet effort paraîtra dans un volume « Bird Studies with a Camera ». Et ça, on est en 1800. Alors, en avril 1911, le conservateur du Musée géologique du Canada se fixe comme objectif de publier un ouvrage moderne sur les oiseaux du pays. Et c'est une des premières régions qu'il explore à cette fin, est celle de la baie des Chaleurs et des îles de la Madeleine. Mais il n'a pas pu se rendre jusqu'au rocher aux oiseaux pour une raison, à cause des rumeurs sur la présence de croiseurs allemands dans le golfe. Et c'est une réalité. Ils sont venus dans le golfe.
Réel.
Et il s'est arrêté à Percé, à l'île Bonaventure. Et son rapport sur la destruction des oiseaux à cet endroit a contribué à en faire un premier refuge qui a été créé en vertu de la nouvelle convention concernant les oiseaux migrateurs, ce qui nous amène...
C'est là qu'il faut que je pose ma question sur James Bond.
On a dit d'Audibon à James Bond. Ben, on y arrive. En 1953, le romancier britannique Ian Fleming, on s'y rapproche.
Okay.
Il cherche un nom pour son héros de roman d'espionnage. Et il s'arrête sur celui de James Bond. Pourquoi? Ben, c'était l'auteur de Field Guide to the Birds of the West Indies. Il avait alors en main, dans sa villa jamaïcaine, et sa villa jamaïcaine s'appelait GoldenEye. Fleming était un ornithologue amateur chevronné qui a pu rencontrer le véritable James Bond. Ce dernier était un ornithologiste attiré à l'Academy of Natural Science de Philadelphie. Et pendant la majeure partie du 20e siècle, il a été l'autorité ultime pour tout ce qui a trait à la faune des Antilles. Donc, étonnant de voir comment on est arrivé à James Bond. Ce bonhomme-là,
moi qui
il a fait trois voyages d'observation aux îles en 1934, 35 et 36. Et c'est un des derniers dans le long cortège de taxonomistes qui a défilé sur plus d'un siècle. Donc, vous voyez, on est arrivé à James Bond. Comment. Et c'était Michel Gosselin qui nous en parlait dans Québec Oiseau Printemps 2015.
mort qui boit du mauvais whisky. Je suis privé, j'ai pas d'amis, je dormirai plus chaque nuit. Elle me regardait sur mes gardes, je la regarde aussi. Riche héritière, aventurière, la rose est parquée derrière. Garde du corps, attend dehors, montre les dents si je sors. Je suis privé, j'ai pas d'amour, je suis payé pour prouver qu'elle est coupable sur la table, elle plante un poignard doré.
Alors, c'était Michel Rivard qui chantait « Le privé ». On part en voyage avec un autre inspecteur. Je vous présente un texte de Laila Maalouf, publié dans un cahier spécial qui s'appelait « Voyage par les livres » dans la Presse Plus, publié le 21 mai dernier, et dont le titre est « La Scanie de Wallander ». Pour les amateurs des enquêtes du commissaire Wallander, la Scanie, dépeinte dans les romans d'Henning Menkel, avec ses bandes d'oiseaux noirs aux cris sinistres, son vent inlassable et son brouillard aveuglant, est une région sombre et inquiétante, inhospitalière. Et pourtant, le climat doux, les villes médiévales, les campagnes vallonnées et les champs de colza qui s'étendent à perte de vue sur la mer Baltique en Scanie ont de quoi séduire les visiteurs, à commencer par Ystad, point de départ obligé pour les admirateurs qui rêvent de découvrir l'extrême sud de la Suède sur les traces de leurs policiers favoris.
Alors, est-ce qu'on peut trouver un forfait Wallander quand on va là-dedans?
Plusieurs. Ah. L'Office de tourisme régional permet de réserver des forfaits Wallander à Ystad avec hébergement, visite guidée, admission au musée du cinéma, Cineteket. Je m'excuse d'avance pour mon accent en suédois, là, et repas dans l'un des restaurants préférés du commissaire. La commune d'Istad a même conçu une application Apple et Android pour suivre Valender à la trace sur son territoire. Dans l'une de ses visites guidées, mises sur pied en collaboration avec l'Office de tourisme, les visiteurs peuvent embarquer dans un rutilant camion de pompiers de 1933 pour une visite d'une heure. On nous entraîne à la découverte d'Istad à travers les ruelles étroites de la vieille ville. On passe notamment par l'illustre rue Maria-Gatan, où se trouve l'appartement de Valender devant le commissariat. Parmi les cafés et restaurants préférés du commissaire, un arrêt s'impose à la pizzeria Broderna M, autant pour ses pizzas traditionnelles que pour les variétés plus originales, comme la gourmet, ainsi qu'à la pâtisserie Fridolf's Conditori, située juste en face de la gare. On peut se laisser tenter par le gâteau Valender, qui est recouvert de crémage aux couleurs de la police, ou par l'une de ces des délicieuses sucreries à base de pâte d'amande.
Avec quoi, un gâteau avec la couleur de la police?
Le gâteau Valender.
Je ne sais pas. L'expérience ne serait pas complète sans une nuit à l'Hôtel Continental, l'un des plus vieux de Suède. Il date de 1829, où Kurt Valender donne souvent rendez-vous à ses collaborateurs. On succombe, sinon, au charme pittoresque de l'hôtel Anno 1793, Sekel Garden, qui possède sa propre suite Valender.
Est-ce qu'il y a d'autres endroits que Istad qu'on peut visiter avec, en lien avec Valender?
Ah oui, il y en a beaucoup. En Scanie, les distances sont courtes et le réseau de transport en commun rapide et efficace. Même sans voiture, on peut donc facilement visiter la région pour se rendre dans les villages comme Loderop où a habité le père de Valender. Au départ de la gare, on emprunte en autocar la route qui longe le bois de Sandskogen et qui mène à Alestenar, l'incontournable Stonehenge suédois. On n'est pas là. Le chauffeur nous dépose 15 km plus loin à Kaseberga. Après une vingtaine de minutes de marche sur un sentier sinueux à travers les pâturages de moutons, on aperçoit au loin l'ombre impressionnante des mégalithes. Les 59 menhirs, alignés en ovale au bord d'une falaise surplombant la mer et battus par les vents, conservent à ce jour leur part de mystère. Impossible en effet pour les archéologues de se prononcer sur la date exacte de leur édification, qui se situerait durant l'âge de bronze ou à l'époque des Vikings. Dans toute la province qui a appartenu au Danemark jusqu'en 1658, l'histoire est d'ailleurs bien visible. Le sud de la Suède est parsemé de villes médiévales aux rues piétonnières recouvertes de pavés, comme Lund, cité universitaire où Valender s'est souvent rendu pour obtenir des informations de l'Institut médico-légal. On y prend le temps de s'arrêter à la cathédrale romane, la plus grande de Scandinavie, avec sa fascinante horloge astronomique du 15e siècle, dont les 6 figurines s'animent 2 fois par jour. Non loin de là, rue Klostergatan, on casse la croûte à la boulangerie Saint-Jacob, qui prépare pain et sandwich typiquement suédois. Les viennoiseries à la cardamome sont à goûter à tout prix, quitte à repasser si la fournée est déjà épuisée. La Scanie, c'est aussi des villages de pêcheurs où la relation avec la mer est profondément ancrée dans les traditions. Simrishamn, c'est une paisible ville portuaire de l'Est dont les amateurs de Valender reconnaîtront le nom, vaut le détour pour y manger poissons et crevettes et se tremper les pieds dans l'eau de la Baltique, si on n'est pas frileux, évidemment. À l'opposé, complètement sur la côte ouest, Helsingborg est une autre ville portuaire agréable à parcourir, quoique bien différente de Simrishamn, déjà par sa taille, ses édifices et ses traversiers qui se rendent au Danemark voisin. Elle époque le continent. Elle évoque le continent et ressemble beaucoup plus à Malmö, qui est la ville natale de Valender, où il a été poignardé en début de carrière. On peut pourtant se balader en toute quiétude dans le magnifique parc Pildammsparken. Si on atterrit à Copenhague, c'est à Malmö, la cosmopolite, 3e ville du pays, que commence et s'achèvera ce séjour en Scanie. Dans le train qui traverse le détroit de l'Øresund en moins de 30 minutes pour rejoindre l'aéroport de Kastrup, on laisse derrière soi ses collines verdoyantes et ses énigmes policières. Tout, sauf l'envie de revenir.
Ton accent n'est pas si mal.
Je pourrais y aller.
Oui.
Je rappelle que c'était un texte de Laila Maalouf publié dans le cahier spécial Voyage par les livres dans la Presse Plus le 21 mai dernier. Thank you.
que ceci met un terme à notre émission. On veut remercier tout le monde pour d'avoir été présent avec nous. Mais on veut remercier particulièrement Jean-Sébastien Daliberté, notre fidèle metteur en ondes. On veut le remercier pour sa présence continuelle, son sourire, ses choix musicaux. On l'apprécie grandement. Et on lui souhaite un bon congé de paternité. Hein?
Oui, bon congé.
Bon congé. Alors, pour nous rejoindre, vous allez sur le site canalm.org pour avoir accès à toutes les émissions ou vusetvoix.com.
Et si vous nous avez manqué, bien, vous ne nous écoutez pas présentement, mais quelqu'un va vous dire qu'il y a des reprises à 13h et 21h.
Vous pouvez nous réécouter aussi.
Oui.
Ah oui, c'est toujours intéressant. On vous souhaite une très bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir.